Avec l'éditorialiste politique de BFM TV et présentateur de l'émission Tous contre Tréhard le vendredi. Bonsoir Yves Tréhard.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
Anne Hidalgo a donc décidé de ne pas briguer de nouveau mandat à la mairie de Paris. Ça aurait été le troisième. Est-ce que vous êtes surpris déjà par cette décision, Alain ?
Ah, pas du tout. D'abord parce que, avant elle, Bertrand Delanoë, qui lui a été un grand maire de Paris, imaginatif, moderne, tolérant, ouvert, avait estimé, malgré ses succès, que tout le monde reconnaissait, enfin tout le monde, c'est jamais tout le monde, mais la plupart, reconnaissait que deux mandats c'était suffisant, et donc il n'avait pas sollicité un troisième. Anne Hidalgo est beaucoup plus contestée qu'il ne l'était, évidemment, c'est même pas comparable. Il faut être équilibré, elle a fait des choses qui sont positives et qui étaient nécessaires en ce qui concerne l'écologie ou en ce qui concerne la circulation des cyclistes, etc. Elle a fait aussi beaucoup de choses qui sont très contestées. C'est vrai d'abord de la gestion financière, c'est vrai de la circulation qui a quand même été un cauchemar et qui le demeure alors que le nombre de voitures qui circulent a beaucoup diminué à cause de la multiplication de travaux qui étaient menés dans des conditions... Bon, tout le monde a été agacé. C'est vrai parce que la sécurité est insuffisante et il y a même des quartiers dans lesquels pratiquement il est dangereux de se promener.
Elle a créé une police municipale après avoir d'ailleurs été
je ne dis pas qu'elle n'a rien fait. Je dis qu'elle est contestée. Bon, et dans ces conditions, je pense qu'elle a, de son point de vue, tout à fait raison.
Parce qu'elle pensait être battue ? Enfin, elle aurait pu être battue.
Je pense qu'elle risquait d'être battue, oui.
Surpris par évident, déjà, la décision déjà ou pas, non ?
Il y avait un doute. On se demandait si elle allait pas, parce que elle a été, elle a
après
quand même
le succès
elle a
des JO notamment
avec les Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que elle a beaucoup, je dirais, elle a beaucoup contesté les Jeux Olympiques. Elle était contre les Jeux Olympiques au début. Quand
contre la décision de François Hollande.
François Hollande a décidé de les accueillir, et elle disait hors de question parce que de toute manière, on ne les aura pas. Elle pensait qu'on partait.
Parce qu'elle avait perdu précédemment.
Et puis finalement, elle a pris ces Jeux Olympiques avec passion. Elle est même allée très loin, puisqu'elle est allée se baigner dans la Seine, alors qu'on ne lui demandait pas un tel effort.
Ça n'a réussi
et,
à personne.
et on se disait, tiens, elle va peut-être surfer, selon les formules consacrées, sur ce succès. Et puis non, je crois qu'elle est effectivement plus raisonnable qu'on ne le pensait. Deux mandats, ça fait... 2 fois 6 ans, c'est beaucoup. Et effectivement, elle a été très contestée et elle a néanmoins, vous vous souvenez de ce titre d'un livre qui s'appelait Notre drame de Paris ? Eh bien, il a été écrit pendant son premier mandat contre elle. Elle a été critiquée par Pierre Perret, par Fabrice Lucchini. Enfin bon, elle en a pris plein la tête. Elle a été réélue, néanmoins, cher Alain.
Je vous signale que vous ne m'apprenez rien.
Évidemment. Oui. Elle a été réélue, mais avec un taux d'abstention.
Dans une
période
particulière post-Covid où beaucoup de sortants ont été réélus.
Oui, non, mais quand même, elle a été réélue contre Rachida Dati.
La ville est à gauche?
Mais la ville a changé. Sociologiquement et politiquement, la ville a changé. Pourquoi? Elle a changé, d'ailleurs, quand Bertrand Delanoë est arrivé en 2001. À ce moment-là, on a vu que la ville avait basculé, parce que sous Jacques Chirac, c'est-à-dire en 1983 et en 1988, il fait carton plein, c'est-à-dire qu'il a les 20 arrondissements avec lui. Et puis, en 1995, il se présente à l'élection présidentielle, comme le sait très bien Alain. Et à ce moment-là, eh bien, la droite perd, à l'époque, 6 arrondissements. Et, la gauche entre dans Paris et elle s'y installe.
Alain Duhamel, donc, si on se projette dans la guerre de succession qui n'est fait que commencer, dans le camp socialiste, il y a 2 candidats déjà,
oui.
Dont un officiel, j'ai envie de dire, adoubé
de bon.
Deux bons. Rémi Féraud adoubé par Anne Hidalgo.
Pour les socialistes.
Emmanuel Grégoire, mais il y a aussi des vedettes comme Rachida Dati, Gabriel Attal qui pourraient être candidats.
D'abord, quand on regarde l'ensemble de ceux qui manifestent une envie de se présenter, ça ne veut pas dire que tous le feront. D'ailleurs, tous ne pourront pas le faire. Mais ils sont pratiquement 10, hein.
Ah oui, carrément.
Ah oui. Il y a 2 socialistes, 1 communiste. Il y aura peut-être 1 écologiste. Ça fait 4 à gauche. Il y en a aussi 4 à droite.
Un insoumis, sans doute aussi.
Alors, un insoumis. Ou une insoumise.
Une insoumise.
Bon, à droite, c'est la même chose. Il y a évidemment Rachida Dati, mais il y aura sans doute sûrement un autre candidat de droite. Et il est possible qu'il y en ait un troisième. Bon, ça fait déjà neuf, hein. Et il y aura en plus, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, une tentative centriste.
Et il y aura un Rassemblement national.
Et il y aura à peu près certainement un Rassemblement national, bien que eux, dans l'histoire,
ne compteront pas
beaucoup à Paris. Mais alors, le problème de fond, c'est d'abord que Paris est maintenant sociologiquement plutôt à gauche. Et le deuxième problème, c'est le type de scrutin très particulier pour Paris ou Marseille, et en l'occurrence pour Paris, c'est-à-dire le fait que, contrairement à toutes les villes de France, on ne vote pas en même temps pour les conseillers municipaux et directement pour les conseillers municipaux et le maire, mais qu'il y ait le vote par arrondissement. Et le vote par arrondissement, c'est un handicap pour Rachida Dati. Si Gabriel Attal voulait se présenter, je n'y crois pas trop personnellement, s'il voulait se présenter, ça serait également un handicap.
Mais comment expliquer que cette ville très riche, dont les loyers ont explosé ces dernières années, le prix de l'immobilier...
Et la fiscalité,
soit une ville de gauche. Alors certes, il y a des logements sociaux, donc peut-être l'un des électeurs de gauche, mais enfin, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut quand même être riche pour vivre à Paris.
Oui, mais vous savez que la majorité des appartements, des logements à Paris sont des logements sociaux. Donc les gens qui vivent à Paris... Oui. Des Parisiens, notamment, de tout l'Est de Paris, ne sont pas nécessairement des bourgeois tels qu'on l'entend et tels qu'on les voit dans les quartiers, dans ce qu'on appelle les beaux quartiers. Il faut faire très attention parce que Paris est a une singularité politique. D'abord, son scrutin est très singulier, comme les grandes villes, Marseille et Lyon, c'est vrai, mais c'est un scrutin qui est assez particulier, qui est à trois tours, en fait. Hein. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose...
À trois tours, parce que ce sont les conseillers municipaux qui eux-mêmes élisent le maire. Éliront le maire.
Voilà. Au suffrage, donc c'est un suffrage universel, d'une certaine façon indirect. Oui, mais ce qui est assez intéressant, surtout, c'est que c'est une sociologie qui ne répond absolument pas aux intérêts, au centre d'intérêt des autres Français.
Paris est très différent de la
Paris,
France.
Paris, c'est une ville qui est assez révolutionnaire de ce point de vue. Vous avez notamment une poussée très forte, et on le sent aux dernières élections, notamment de la France insoumise. La France insoumise est très forte à Paris, beaucoup plus qu'ailleurs.
Dans le reste de la France.
L'écologie aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, on ne peut pas parier sur un candidat plus que sur un autre. Et je dirais que Rachida Dati, par exemple, puisque elle est probablement candidate, pourrait avoir, parce que il y a le côté transgressif à Paris. C'était ce que, d'ailleurs, Bertrand Delanoë avait magnifiquement réussi. C'était un homme de gauche, mais qui séduisait une partie de la bourgeoisie parisienne. Et ben, Rachida Dati, elle a cette particularité d'être de droite, mais de pouvoir séduire une partie des classes populaires de l'Est.
Bon, Rachida Dati.
Elle est candidate et si elle peut l'être.
Bon, en tout cas, elle proclame qu'elle a envie de l'être.
Hein. Pourquoi ça, elle ne pourrait pas être candidate?
Parce qu'elle a quelques soucis judiciaires.
Elle a des soucis judiciaires. Et avec les risques que ça implique de non-éligibilité, etc. Donc, sa candidature est hypothétique. En revanche, elle en a très envie. Elle a des qualités
elle
pour
s'en
ça.
Cache pas.
Elle a des qualités. Elle est excellente en débat. Elle avait fait une campagne la dernière fois, elle était candidate, elle avait fait honnêtement une très bonne campagne. Elle n'a peur de personne, certainement pas de ses adversaires, et en réalité, elle ne craint personne au monde. Ni Dieu ni les hommes. Hein. Ça, elle est comme ça, elle est cash.
Et encore moins les femmes.
Personne. Et surtout pas les journalistes.
Dans l'opinion, elle est quand même. Elle apparaît comme la première opposante à Anne Hidalgo depuis des années.
Parce qu'elle sait trouver des angles et parce que comme elle n'a peur de rien dans ce cas-là, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Elle apostrophe, le cas échéant, elle l'injurie. Ça la gêne pas du tout, ça. Et elle crée des clashs tout le temps. Alors, ça l'a fait exister, évidemment. Elle a une notoriété qui est là. Elle est, à Paris, la plus connue de celles qui, jusqu'à présent, sont sur les rangs. Bon, c'est un avantage. Mais, je répète, elle est handicapée par le mode de scrutin. Elle a ses problèmes personnels. Elle aura des rivaux, même à droite. Enfin, je ne sais pas s'ils tiendront jusqu'au bout. Il y en a un qui tiendra, à mon avis. Pierre-Yves Bourlinzel,
qui a déjà été candidat,
qui n'a jamais eu beaucoup de succès,
je termine quand même, mais qui peut, par exemple, tout à fait prendre un arrondissement.
C'est vrai.
Et avec ce système-là, un arrondissement, c'est souvent ce qui fait la différence.
C'est vrai, je vous l'accorde. Simplement, il faut savoir que, et à gauche et à droite, il n'y aura jamais... Il n'y aura pas un seul candidat.
Ah non, il y en aura quatre.
À gauche, il y aura aussi une compétition très rude entre les socialistes, dont se réclament d'ailleurs les héritiers de Madame Hidalgo, Monsieur Ferraud, en l'occurrence, puisque c'est lui qu'elle a désigné.
Il y aura une primaire.
Mais il y aura évidemment quelqu'un de la France insoumise. Et il y aura
aussi
Madame Sophia Chikirou, probablement. Il y aura un écologiste. Donc, il y aura, ça sera très serré. Et à droite, ce qu'on a constaté au cours des dernières élections, de tous les scrutins nationaux ou municipaux, c'est que il y a une alternance, très souvent, entre le vieux parti, les Républicains, on va dire, RPR, les Républicains, et la nouvelle majorité, l'ancienne majorité macroniste. Quand Macron a été élu en 2017, il a fait un raz-de-marée à Paris. Ça s'est pas confirmé en 2022, par exemple. Et notamment aux législatives de 2022. Et encore moins aux législatives.
Parce qu'à l'époque, la gauche votait Macron.
Voilà. Ah, donc, il y a des incertitudes évidentes. Il y a aucun candidat qui peut, officiellement, aujourd'hui, dire je suis le favori. C'est absolument impossible.
Justement, c'est ce que j'essayais de faire, mais encore.
Il le sera.
Je vous en prie. Fallait-il que j'aie la parole?
Je vous la donne.
Oh, alors.
Gabriel Attal est intéressé, on le sait bien, parce que être le maire de Paris, c'est un point de départ spectaculaire et qui a déjà réussi, en tout cas, à Jacques Chirac. Mais, je répète, le mode de scrutin n'est pas pour lui, et s'il était candidat, il prendrait un énorme risque. D'abord, s'il était battu, tout simplement, ça serait, pour lui, ça resterait dans son image et ça la dégraderait. Or, on ne peut pas dire qu'il serait sûr de ne pas être battu. Bon, et d'autre part, si par hypothèse il gagnait, à ce moment-là, ça voudrait dire, bien entendu, qu'il renonce à être candidat à l'élection présidentielle. On ne peut pas être élu maire de Paris une année et candidat à l'élection présidentielle l'année suivante.
Et s'il perd aussi, c'est fini.
Anne Hidalgo a été réélue maire de Paris. Elle avait promis à l'époque qu'elle ne serait pas candidate à l'élection présidentielle. Elle l'a été.
On a vu ce qui s'est passé.
Oui, le succès n'a pas été au rendez-vous.
Autrement dit, c'est un énorme risque quand même.
Oui, mais alors, justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Paris n'est pas forcément un tremplin pour la suite.
Non, non.
Parce que pendant longtemps,
on disait
que Paris, c'était formidable en attendant
le cas. On avait le cas de Chirac, on a failli avoir le cas de Bertrand Delanoë, qui a été bloqué par le Parti Socialiste, mais l'ambition de Bertrand Delanoë était évidemment de se présenter à l'élection présidentielle de 2012, il voulait se présenter, en 2007 aussi, il voulait se présenter d'ailleurs, et il a été bloqué. Par ses propres troupes.
Il a été bloqué parce qu'il y a eu un vote chez les socialistes.
Exactement. C'est ça. Non, mais il a été bloqué. En revanche, ce qui est sûr, c'est que là aujourd'hui, Madame Hidalgo n'a aucune garantie qu'elle puisse être que quelqu'un puisse lui succéder. Et je vous rappellerai que pour ce qui la concerne, elle a gagné l'élection municipale de Paris avant de se présenter à l'élection présidentielle, où là, ça a été pour elle, très rude, puisqu'elle a fait 1,7% des voix. À Paris, elle a fait 22 000 suffrages sur Paris. Mais vous imaginez, c'est rien. Donc, on peut pas imaginer que Attal, s'il se présente à cette élection, il perd ou il gagne, ça lui barre, dans tous les cas, présidentielle.
C'est pour ça que je disais que ça n'était pas forcément son intérêt d'être candidat à Paris, même si c'est toujours agréable de vérifier à travers les sondages qu'on y est populaire.
Bien sûr.
Mais on parle de Paris. Pour un Marseillais, un Bordelais, un Lyonnais, est-ce que tout ça est très important, ce qui va se passer à Paris, là ?
Alors, il y a une dimension de plus à propos de Paris, qui est que ça, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, mais on l'a vu aussi depuis à maintes occasions. Paris, qui est une ville extraordinaire et qui est fascinante pour le monde entier, agace prodigieusement le reste des Français. Et qu'il y a un anti-parisianisme qui existe, qui est fort et qui est plus sensible aujourd'hui que ce que moi j'ai pu connaître il y a 80 ans.
Parce que Paris, c'est les élites ?
Parce que Paris, c'est l'image de la concentration du pouvoir, du prestige. Pensent les autres Français des avantages Hein, bon, c'est vrai qu'il y a des investissements, par exemple, culturels, pour prendre le plus facile, à Paris, qui sont pas comparables avec le reste de la France. Et il y a un sentiment d'inégalité vis-à-vis de Paris, et je dirais un sentiment protestataire vis-à-vis de Paris, ce qui fait que être maire de Paris, et même être candidat à Paris et battu, ça n'est pas très bon pour une élection présidentielle.
Ça a été largement, je me dirais, entretenu par une grande partie de la du personnel politique français pendant des années. Et d'ailleurs, nous avons un confrère.
C'est Paris qui décide.
Nous avons un confrère qui a écrit, un confrère qui travaille à Paris Match, qui a écrit Paris et le désert français. C'était juste après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et qui était une réalité. Tout se décidait. On est un pays hyper jacobin, hyper centralisé. Mais j'atténuerais et je tempérerais un peu ce que dit Alain.
Ah oui,
si vous regardez,
c'est la force de la jeunesse.
Oh, merci Alain. Si vous comparez à d'autres pays, maintenant beaucoup de pays en Occident sont en rébellion contre leur capitale.
Mais pas
les États-Unis, évidemment, vis-à-vis de Washington. Le Brexit est quand même une décision, un vote qui est largement anti-londonien. Alors, et vous avez comme ça des villes. Alors, l'Allemagne n'est pas dans ce cas, parce que l'Allemagne n'est pas un pays centralisé comme nous. Mais il y a quand même aujourd'hui un phénomène populiste qui va contre les élites des capitales.
Alors, je dirais qu'il n'y a pas un phénomène, il y a deux phénomènes qui sont qui se conjuguent, bien entendu. Le premier, c'est le clivage entre les métropoles et le reste de la population. Et pour le coup, il y a un sentiment d'inégalité vis-à-vis des métropoles, et c'est loin d'avoir disparu. Marseille, les Marseillais adorent leur ville tout en détestant ce qui s'y passe, mais autour de Marseille, il y a beaucoup d'animosité vis-à-vis des Marseillais parce que tout se passe à Marseille.
Et à Bordeaux, pareil, on l'a vu pendant les Gilets jaunes.
C'est ça. Bon, alors il y a ça. Et puis, en plus, il y a la dimension franco-française qui est que Paris est le nombril du monde et que tout ce qui doit se passer en France de bien doit se passer à Paris. Que ça exaspère, ce qui d'ailleurs est compréhensible, ça exaspère évidemment le reste de la population. C'est aussi pour ça qu'il est peut-être préférable que le ou la prochaine maire de Paris soit une personnalité assez effacée pour ne pas en plus avoir un prestige personnel qui crée un troisième facteur de mécontentement des autres.
J'ajouterais à cela, c'est que le pouvoir central s'est longtemps méfié de Paris et que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de maire pendant très longtemps à Paris.
Oui, à juste titre.
À juste titre. Parce qu'on avait peur, justement, du pouvoir parisien. Les élites avaient peur du pouvoir parisien.
Merci, messieurs.